Vous écoutez France Culture.
Pages arrachées au discours de réception des prix Nobel de littérature, 1903-2010. 2009, Herta Müller.
Née à Nitzidorf, Roumanie, en 1953. Langue, allemand. Sa famille fait partie de la minorité allemande de Roumanie. En 1945, à l'instar de nombreux Roumains de langue allemande, sa mère est déportée pendant 5 ans dans un camp de travail de l'actuelle Ukraine. Pour avoir refusé de coopérer avec la police secrète, Herta Müller elle-même fait l'objet d'incessants harcèlements et ostracisme. Ses livres sont censurés puis interdits de publication en Roumanie. En 1987, fuyant la dictature de Ceausescu, elle émigre en Allemagne.
Chaque mot en sait long sur le cercle vicieux. Tu as un mouchoir ? Me demandait ma mère au portail tous les matins avant que je ne parte dans la rue. Je n'en avais pas. Étant sans mouchoir, je retournais en prendre un dans ma chambre. Je n'en avais jamais car tous les jours, j'attendais cette question. Le mouchoir était la preuve que ma mère me protégeait le matin. Le reste de la journée, pour les autres sujets, je me débrouillais seule. La question « Tu as un mouchoir ?» était un mot tendre détourné. Direct, il aurait été gênant. Ça ne se faisait pas chez les paysans. L'amour était travesti en question. On ne pouvait l'exprimer que sèchement, d'un ton impérieux, comme les gestes du travail. C'était même la brusquerie de la voix qui soulignait la tendresse. Tous les matins au portail, j'étais d'abord sans mouchoir et j'attendais d'en avoir un pour m'en aller dans la rue. C'était comme si, grâce au mouchoir, ma mère avait été présente. Et 20 ans plus tard, à la ville, j'étais depuis longtemps seule, traductrice dans une usine de construction mécanique. Je me levais à 5 heures et prenais mon travail à 6h30. Le matin, diffusé par le haut-parleur, l'hymne national retentissait dans la cour de l'usine. À la pause de midi, c'était des chœurs d'ouvriers. Quant aux ouvriers attablés, ils avaient les yeux vides comme du fer blanc, les mains barbouillées de graisse, et leurs casse-croûtes étaient emballées dans du papier journal. Avant de manger leur tranche de lard, ils grattaient l'encre d'imprimerie qui était dessus. 2 années de train-train quotidien s'écoulèrent. La 3e année marqua la fin de l'égalité des jours. En l'espace d'une semaine, je vis arriver 3 fois dans mon bureau, tôt le matin, un géant à la lourde ossature et au regard d'un bleu étincelant. Un colosse des services secrets. La première fois, il m'insulta en restant debout et s'en alla. La 2e fois, il enleva sa parka, l'accrocha à la clé du placard et s'assit. Ce matin-là, j'avais apporté des tulipes de chez moi et je les arrangeais dans le vase. Tout en me regardant, il loua ma singulière expérience de la nature humaine. Il avait une voix onctueuse qui me sembla louche. Je refusai le compliment. Je m'y connaissais en tulipes, pas en êtres humains. Il rétorqua d'un air narquois qu'il en savait plus long sur ma personne que moi sur les tulipes. Et il partit, sa parka sur le bras. La 3e fois, il s'assit et je restai debout car il avait posé sa serviette sur ma chaise. Je n'osais pas la mettre par terre. Il me traita d'idiote finie, de fainéante, de femme facile, aussi infecte qu'une chienne errante. Il repoussa le vase au bord du bureau et au milieu posa un crayon et une feuille de papier. Il hurla « Écrivez !» Debout, j'écrivis sous sa dictée mon nom, ma date de naissance et mon adresse. Puis, quel que soit le degré de proximité ou de parenté, je ne dirai à personne que je collabore. Ce mot, je ne l'écrivis pas. Je posai le crayon, allai à la fenêtre et regardai au dehors la rue poussiéreuse. Elle n'était pas asphaltée, elle avait des nids de poules et des maisons bossues. Cette ruelle délabrée s'appelait toujours Strada Gloriei, rue de la gloire. Un chat était juché sur un mûrier tout dépouillé, rue de la Gloire. C'était le chat de l'usine, celui à l'oreille déchirée. Au-dessus de lui, un soleil matinal comme un tambour jaune. Je fis « Nam caractérul ». Je n'ai pas ce caractère-là. Je le dis à la rue, dehors. Le mot « caractère » exaspéra l'homme des services secrets. Il déchira la feuille et jeta les bouts de papier par terre. Mais à l'idée qu'il devrait présenter à son chef cette tentative de recrutement, il se baissa et ramassa tous les morceaux qu'il flanqua dans sa serviette. Puis il poussa un gros soupir et, dans sa déconfiture, lança le vase de tulipes contre le mur. Il s'y fracassa et on entendit comme un grincement de dents en plein vol. La serviette sous le bras, il marmonna « Tu le regretteras, on te noiera dans le fleuve ». Je fis en aparté « Si je signe ça, je ne pourrai plus vivre avec moi-même, donc j'en viendrai là. Autant que vous vous en chargiez. » La porte du bureau étant déjà ouverte, il était parti. Dehors, dans la Strada Gloriei, le chat de l'usine avait sauté de l'arbre sur le toit de la maison. Une branche se balançait comme un trampoline. Le lendemain, les tracasseries commencèrent. On voulait que je quitte définitivement l'usine. Tous les matins, à 6h30, je devais me présenter chez le directeur. Et à chaque fois, il y avait dans son bureau le chef du syndicat et le secrétaire du parti. Comme ma mère, avec sa question d'autrefois « Tu as un mouchoir ?» Le directeur me demandait tous les matins « Tu as trouvé un nouveau travail ?» Je répondais régulièrement « Je n'en cherche pas. Je me sens bien à l'usine. Je voudrais y rester jusqu'à la retraite. » Un matin, à mon arrivée, je trouvai mes gros dictionnaires par terre dans le couloir devant la porte de mon bureau. J'ouvris. C'était un ingénieur qui l'occupait. Il dit « Ici, on frappe avant d'entrer. C'est moi qui suis là, tu n'as rien à y faire. » Je ne pouvais pas rentrer à la maison. Il ne fallait pas leur fournir ce prétexte. On m'aurait licencié pour cause d'absence injustifiée. Je n'avais plus de bureau, mais il fallait à tout prix que je vienne travailler normalement tous les jours. Il était hors de question de manquer. Les premiers temps, mon ami me libéra un coin de son bureau. À chaque fois, je lui racontais tout, en rentrant par la misérable Strada Gloriei. Jusqu'au matin où, postée à l'entrée de son bureau, elle déclara « Je n'ai pas le droit de te laisser entrer. Tout le monde dit que tu es une balance. » Désormais, les tracasseries venaient d'en bas. C'étaient des rumeurs qui circulaient parmi les collègues. Et ça, c'était le pire. On peut se défendre contre des attaques, mais face aux calomnies, on est impuissant. Jour après jour, dans mes calculs, je ne donnais pas cher de ma peau. Mais la perfidie, je n'en venais pas à bout. Mes calculs ne la rendaient pas supportable. La calomnie vous couvre de boue, et on étouffe, faute de pouvoir se défendre. Dans l'esprit de mes collègues, j'étais précisément ce que j'avais refusé d'être. Si je les avais espionnés, ils auraient eu une confiance aveugle en moi. Au fond, ils me punissaient de les avoir épargnés. Comme je ne devais surtout pas être absente, même si je n'avais plus de bureau et que mon ami ne me prêtait plus le sien, je traînais dans la cage d'escalier sans savoir que faire. Je montais et descendais les marches. Et tout à coup, je redevins l'enfant de ma mère, car j'avais un mouchoir. Je le posai sur une marche entre le premier et le deuxième étage, le lissai bien comme il faut, et m'assis dessus. Mes gros dictionnaires sur les genoux, je me mis à traduire des descriptions de machines hydrauliques. J'avais l'esprit de l'escalier et un mouchoir en guise de bureau. Ayant l'esprit de l'escalier, je cherchais ce mot dans le dictionnaire pour savoir de quoi il retournait. La marche du bas est dite de départ. Celle du haut est la marche palière. La partie horizontale sur laquelle on pose le pied s'appelle le giron. Et la partie en saillie sur le nu de la contre-marche est le nez. Le collet, c'est le petit côté d'une marche. Nez, collet, l'escalier avait par conséquent un visage. Qu'est-ce qui pousse donc l'être humain à intégrer son propre visage, même aux objets les plus encombrants, qu'il soit en bois, en pierre, en béton ou en fer, et à donner à un outillage inanimé le nom de sa propre chair, à le personnifier en y voyant des parties du corps. Les spécialistes d'une technique ont-ils besoin de cette tendresse cachée pour rendre supportable un travail ardu? Est-ce que chaque travail, dans n'importe quel métier, obéit au même principe que la question de ma mère sur le mouchoir? Quand j'étais petite, à la maison, il y avait un tiroir à mouchoirs avec deux rangées comportant chacune trois piles. À gauche, les mouchoirs d'homme pour mon père et mon grand-père. À droite, les mouchoirs de femme pour ma mère et ma grand-mère. Au milieu, les mouchoirs d'enfant pour moi. Ce tiroir était notre portrait de famille, en format mouchoir de poche. Les mouchoirs d'hommes, les plus grands, avaient sur le pourtour des rayures foncées en marron, gris ou bordeaux. Ceux de femmes étaient plus petits, avec un liseré bleu clair, rouge ou vert. Encore plus petits et sans liseré, ceux d'enfants formaient un carré blanc orné de fleurs ou d'animaux. Dans chaque catégorie de mouchoirs, il y avait ceux pour tous les jours, sur le devant, et ceux du dimanche, au fond. Le dimanche, le mouchoir devait être assorti aux vêtements, même si on ne le voyait pas. À la maison, le mouchoir comptait plus que tout, et même plus que nous. Il était d'une utilité universelle. En cas de rhume, saignement de nez, écorchure à la main, au coude ou au genou, il servait à essuyer les larmes, ou si on le mordait, à les retenir. Contre la migraine, on appliquait sur le front un mouchoir imbibé d'eau froide. Noué aux quatre coins, il protégeait la tête des insolations ou de la pluie. Pour ne pas oublier quelque chose, on y faisait un nœud en guise de pense-bête. Pour porter un sac lourd, on enroulait son mouchoir autour de sa main. On l'agitait en signe d'adieu au départ du train. Et comme train se dit train en roumain, et que le mot larme se dit train en dialecte du Banat, le grincement des roues sur les rails m'a toujours fait penser aux pleurs. Dans mon village, quand quelqu'un mourait chez soi, on lui nouait aussitôt un mouchoir autour du menton pour maintenir la bouche fermée jusqu'à la rigidité cadavérique. Et si quelqu'un étant sorti tombait à la renverse au bord du chemin, il y avait toujours un passant pour lui couvrir le visage de son mouchoir. Là, le mouchoir était le premier repos du mort. En été, les jours de canicule, les parents envoyaient leurs enfants au cimetière arroser les fleurs en fin de soirée. Par groupe de deux ou trois, nous allions de tombe en tombe en arrosant vite. Puis, bien serrés contre les autres sur les marches de la chapelle, nous regardions les traînées de vapeur qui montaient de la plupart des tombes. Elles volaient quelque temps dans l'air noir et disparaissaient. Pour nous, c'étaient les âmes des morts, des silhouettes d'animaux, des lunettes, des fioles et des tasses, des gants et des chaussettes. Et ça et là, un mouchoir blanc, avec le noir liseré de la nuit. Plus tard, j'eus des entretiens avec Oscar Pastior pour écrire mon livre sur sa déportation dans un camp de travail soviétique, et il me raconta qu'une vieille mère russe lui avait donné un mouchoir de batiste. « Peut-être que vous aurez de la chance, mon fils et toi, et que vous pourrez bientôt rentrer chez vous », avait dit la russe. Son fils avait l'âge d'Oscar Pastior et il était tout aussi éloigné de sa maison, mais dans une autre direction, selon elle, dans un bataillon pénitentiaire. Mendiant à demi-mort de faim, Oscar Pastior avait frappé à sa porte. Il voulait échanger un boulet de charbon contre un peu de nourriture. Elle le laissa entrer, lui donna une soupe bien chaude, et comme il avait le nez qui coulait dans l'assiette, ce mouchoir blanc de batiste n'ayant jamais servi. Avec son bord ajouré, ses faisceaux et ses rosettes méticuleusement brodées au fil de soie, ce mouchoir était d'une beauté qui étreignit le mendiant tout en le blessant. Cet objet ambigu était d'une part un réconfort en batiste, et d'autre part un centimètre au bâtonnet de soie, petit trait blanc sur la graduation de la déchéance. Pour cette femme, Pastior était lui-même un être ambigu, entre mendiant détaché du monde et enfant perdu dans le monde. Double personnage, il fut comblé et dépassé par le geste d'une femme qui, elle-même, était à ses yeux deux personnes,
une étrangère et une mère aux petits soins demandant « Tu as un mouchoir ?»
Depuis que je connais cette histoire, j'ai moi aussi une question. La phrase « Tu as un mouchoir » est-elle universellement valable ? S'étend-elle sur la moitié du monde, dans le scintillement de la neige, des frimas au dégel ? Franchit-elle toutes les frontières entre les monts et les steppes pour entrer dans un immense empire parsemé de camps pénitentiaires et de camps de travail ? Reste-t-elle increvable, cette question, malgré le marteau et la faucille, ou même tous les camps de rééducation sous Staline ? J'ai beau parler roumain depuis des lustres, c'est en m'entretenant avec Oscar Pastior que j'ai pris conscience, pour la première fois, que mouchoir se dit en roumain « Batista ». Encore la sensualité de cette langue roumaine qui, avec une simplicité absolue, envoie ses mots au cœur des choses. La matière ne fait pas de détour. Elle se désigne comme un mouchoir déjà confectionné, « Batista ». À croire que tous les mouchoirs du monde sont toujours en batiste. Oscar Pastior a conservé dans son pactage cette relique d'une double mère ayant un double fils, et il l'a rapportée chez lui au bout de 5 années passées au camp. Pourquoi ? Son mouchoir blanc était l'espoir et la peur. Abandonner l'espoir ou la peur, c'est mourir. Autant dire que les moindres objets, même un mouchoir, relient ce que la vie a de plus disparate. Les objets décrivent des cercles, et jusque dans leurs écarts, ils ont tendance à se conformer à la répétition, au cercle vicieux. On peut le croire, mais pas le dire. Et ce qui est impossible à dire peut s'écrire, puisque l'écriture est un acte muet, un travail partant de la tête pour aller vers la main en évitant la bouche. Sous la dictature, j'ai beaucoup parlé, surtout parce que j'avais décidé de ne pas claironner. Mes paroles ont presque toujours eu des conséquences insoutenables. Mais l'écriture a commencé par le silence. Dans cet escalier d'usine où, livré à moi-même, j'ai dû tirer de moi davantage que la parole ne le permettait. La parole ne pouvait plus exprimer ce qui se passait. Elle faisait à la rigueur des ajouts adventices sans évoquer leur portée. Cette dernière, je n'avais d'autre ressource que de l'épeler en silence dans ma tête, dans le cercle vicieux des mots lorsque j'écrivais. Face à la peur de la mort, ma réaction fut une soif de vie, une soif de mots. Seul le tourbillon des mots parvenait à formuler mon état. Il épelait ce que la bouche n'aurait su dire. Dans le cercle vicieux des mots, je talonnais le vécu jusqu'à ce qu'apparaisse une chose que je n'avais pas connue sous cette forme. Parallèle à la réalité, la pantomime des mots entre en action. Loin de respecter les dimensions réelles, elle diminue l'essentiel et amplifie ce qui est accessoire. Le cercle vicieux des mots prend ses jambes à son cou. Il enseigne au vécu une sorte de logique enchantée. Sa pantomime est à la fois furieuse et anxieuse, et tout aussi avide que blasée. Le thème de la dictature entre en jeu de son propre chef, car l'évidence ne reviendra plus jamais. Chacun en a été entièrement spolié, ou peu s'en faut. Cette thématique est présente de façon implicite, mais ce sont les mots qui prennent possession de moi. Et ils entraînent le thème où bon leur semble. Plus rien ne va comme de juste, et tout est vrai. Dans mon escalier, j'étais aussi seule qu'à l'époque où je gardais les vaches dans la vallée. Je mangeais des feuilles et des fleurs pour être des leurs, puisqu'elles savaient comment vivre et que je l'ignorais. Je les appelais par leur nom. Celui de chardon laiteux devait bien désigner cette plante épineuse aux tiges pleines de lait, sauf que la plante ne répondait pas au nom de chardon laiteux. Je tentais le coup avec des noms inventés. Épine-côte, coup d'aiguille, ne comportant ni lait ni chardon. Dans cette supercherie de tous les faux noms de la vraie plante, la lacune débouchait sur un vide béant. La honte de parler toute seule et non avec la plante. Mais cette honte me faisait du bien. Gardée par la sonorité des mots, je gardais les vaches. Chaque mot dans la figure en sait long sur le cercle vicieux et ne le dit pas. la sonorité des mots sait qu'elle doit tromper, puisque les objets trichent sur leur matière, les sentiments sur leurs gestes. À l'intersection où converge la tromperie des matières et celle des gestes, vient se nicher la sonorité avec sa vérité forgée de toutes pièces. Dans l'écriture, il ne saurait être question de confiance, mais plutôt d'une franche tromperie. À l'usine, quand j'étais la mauvaise blague qu'on lâche dans l'escalier, avec un mouchoir pour tout bureau, j'ai aussi trouvé dans le dictionnaire le beau mot d'échelonnement. Il signifie que les intérêts d'un prêt augmentent par paliers en gravissant des échelons. Ces intérêts croissants sont pour l'un des débours et pour l'autre des rentrées. Dans l'écriture, ce sont les deux, à mesure que je me plonge dans le texte. Plus l'écrit me dévalise, plus il montre au vécu ce qu'il n'y avait pas dans ce qu'on vivait. Seuls les mots le découvrent, vu qu'ils ne le savaient pas auparavant. C'est lorsqu'ils surprennent le vécu qu'ils le reflètent le mieux. Ils deviennent si concluants que le vécu doit s'agripper à eux pour ne pas se désintégrer. À mon sens, les objets ne connaissent pas leur matière, et les gestes ignorent leurs sentiments, comme les mots ignorent la bouche qui les dit. Mais pour nous convaincre de notre propre existence, nous avons besoin d'objets, de gestes et de mots. Plus nous pouvons prendre de mots, plus nous sommes libres tout de même. Quand notre bouche est mise à l'index, nous tentons de nous affirmer par des gestes, voire des objets. Plus malaisés à interpréter, ils n'ont rien de suspect pendant un temps. Ils peuvent nous aider à convertir l'humiliation en une dignité qui, pendant un temps, n'a rien de suspect. Peu avant que je n'émigre de Roumanie, le policier du village est venu arrêter ma mère au petit matin. Arrivé au portail, la voilà qui se dit tout à coup « Tu as un mouchoir ?» Elle n'en avait pas. L'agent avait beau être impatient, elle est retournée en chercher un. Une fois au poste, le policier a tant pété, mais ma mère ne savait pas assez le roumain pour comprendre ses vociférations. Il a quitté le bureau en verrouillant la porte de l'extérieur. Ma mère est restée enfermée toute la journée. Les premières heures, elle a pleuré, assise à la place du policier, puis elle a fait les 100 pas et s'est mise à dépoussiérer les meubles avec son mouchoir mouillé de larmes. Ensuite, elle a pris un seau d'eau dans un coin, un essuie-main accroché à un clou, et elle a lavé le sol. En l'entendant me le raconter, j'ai été horrifiée. « Comment ça ? Tu as nettoyé le bureau de ce type ?» Elle a répondu, nullement gênée, « Je devais m'activer pour passer le temps. Et puis c'était tellement crasseux. Heureusement que j'avais emporté un grand mouchoir d'homme. » À ce moment-là, j'ai compris que cette humiliation supplémentaire, mais délibérée, lui avait permis de garder sa dignité lors de son arrestation. Dans un de mes collages, j'ai cherché des mots pour rendre cela. Je pensais à la vigoureuse rose du cœur, à l'âme infructueuse comme une passoire, mais le propriétaire demanda « Qui prend le dessus ?» Je dis « Sauvez sa peau !» Il cria « La peau n'est qu'une tache, une batiste offensée, dénuée de bon sens. » Pour ceux que la dictature prive de leur dignité tous les jours, jusqu'à aujourd'hui, je voudrais pouvoir dire, ne serait-ce qu'une phrase comportant le mot « mouchoir ». Leur demander simplement « Avez-vous un mouchoir ?» Se peut-il que cette question, de tout temps, ne porte nullement sur le mouchoir, mais sur la solitude aiguë de l'être humain ?
C'était Pages arrachées au discours de réception des prix Nobel de littérature 1903-2010. 2009.
Herta Müller. Extrait.
Texte dit par Hélène Losser.
Traduction Claire de Oliveira.
Choix des textes et présentation par Egla Herrera.
Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière.
Équipe de réalisation Anil Bosselet, Clémence Grosse, Bernard Laniel, Étienne Vallès.
Les discours de réception des prix Nobel de littérature sont parus chez Flammarion, en coédition avec France Culture.